Les nuits de France Culture. Qu'attendait Salvador Dali de son théâtre-musée de Figueras ? Que les visiteurs en sortent en étant persuadés d'y avoir vu des baleines. On comprendra pourquoi en écoutant la 9e partie de Clés pour un théâtre-musée, une série proposée par Daniel Lecomte à partir de ses entretiens avec Dali, réalisée peu de temps après l'ouverture du musée en 1974. Dans ce 9e volet, étaient abordées les recherches stéréoscopiques menées par Dali à cette époque et la fascination pour l'organique, les fluides corporels, les matières liquides, gluantes, que reflétaient ces tableaux, l'attirance répulsion pour le corps qui s'y manifestait. En soumettant son œuvre au regard des psys, était posée la question de la place qui occupait l'érotisme. Et en évoquant la manière théâtrale d'apparaître de Dali, c'était le sens de son narcissisme qui était questionné. Fallait-il prendre au sérieux le théâtre de Dali ? Peut-être bien, disaient certaines voix dans cette émission binoculaire, intra-utérine et cétologique. Nuit magnétique, clé pour un théâtre musée, 9e des 10 épisodes, naissance d'une divinité, première diffusion le 16 novembre 1978 sur France Culture.
Au cours de l'émission d'hier, le docteur Runger a mis en évidence la dimension cosmique qui transparaît de toute l'œuvre de Salvador Dali. C'est elle qui pousse aujourd'hui le peintre à entreprendre des recherches dans le domaine de la stéréoscopie. Déjà, on peut voir au théâtre musée de Figueras plusieurs tableaux à trois dimensions.
Vu à travers l'invention de miroir de monsieur... Montebello.
Et est-ce que cette stéréoscopie vous paraît devoir renouveler, disons, le regard du spectateur et la peinture aussi?
Moi, je l'appelle déjà hyper-réalisme métaphysique. Parce qu'avec mon ami Robert Descharnes, par des procédés purement mathématiques, on a arrivé à faire, à donner à tout le monde l'illusion de scènes qui se trouvent beaucoup plus loin que l'horizon. Alors, tout ce qui est jusqu'à l'horizon, c'est de la physique. Mais si on va plus loin que l'horizon, toutes les choses peintes plus loin que l'horizon sont déjà de la métaphysique.
Robert Descharnes.
Il y a maintenant 4 ans qu'il travaille avec des photos stéréoscopiques. Et au printemps cette année... Il a vraiment voulu en sortir, donc décidé d'aller au-delà, et en me demandant ça, comment c'est l'été ? C'est pendant l'été 75 où il m'a demandé si nous pouvions arriver à positionner un objet qui soit déjà très au-delà de l'horizon. Il s'agissait d'une chaise qu'il voulait dépayser. Cette chaise, il voulait, c'était une chaise photographiée encore. Mais il demandait que l'agrandissement photographique puisse être positionné dans le tableau, et là, il voulait que cette chaise apparaisse bien au-delà de l'horizon de la mer, et que cette chaise semble avoir, disons, 1 kilomètre de haut.
Et j'ai percé un trou dans le ciel, parce que de mon nez à votre nez, on voit une grande distance. Mais par exemple, des nuages là-bas qu'on voit à travers la fenêtre au ciel, regardez, il n'y a pas de distance, ils sont collés. Alors moi, j'ai fait un trou là où il y a l'horizon. Et à travers ce trou, je commence mon tableau. Donc, c'est de l'hyperréalisme métaphysique. Parce que tout ce qu'il y a derrière un trou qui se trouve à l'horizon, que jamais ça a été vu par l'œil humain, au-delà de ce trou, ça commence la métaphysique. D'ici au trou, c'est la physique. Du trou, en allant beaucoup plus loin, dans l'espace, toutes les images sont métaphysiques. Dans le sens où l'entendait Carlo Carra et Giorgio de Chirico.
Mais alors, au fond, est-ce que vous ne réinventez pas sur un plan métaphysique une sorte d'appareil photo avec le trou que vous percez ?
Exactement. Mais par les moyens mécaniques d'une machine à photographier, mais par des moyens mathématiques.
À travers ses recherches, Salvador Dali conserve l'attitude esthétique qu'il a toujours prônée, le refus du monde réaliste et la création d'un univers imaginaire.
Et en même temps, la confirmation de la continuité classique dans ma peinture, puisque j'ai découvert, et on est presque sûr que Gérard Dou, que c'est, comme vous savez, l'élève de Rembrandt, avait déjà à son époque peint des tableaux à l'huile stéréoscopiques.
Oui.
Uniquement, on ne sait pas par quel procédé il pouvait fusionner les images à l'époque.
C'est-à-dire le système optique est perdu.
Et le système pour recréer, pour restituer le tableau est perdu. À tel point que tout le monde a cru jusqu'aujourd'hui, et ça c'est très important, je le répète toujours, et jamais on fait attention à ça, on fait attention à ça, on croyait jusqu'à Dali que Gérard Dou faisait des copies de ces tableaux parce qu'ils avaient beaucoup de succès. Alors il y en a un à Montpellier, l'enfant qui attrape une souris dans la souricière, et une autre à Leningrad. Et bien moi, en examinant les deux tableaux, j'ai vu qu'il y avait des légers changements dans la position des deux tableaux. Donc ils étaient un seul. Parce que s'il aurait voulu répéter, il aurait utilisé le même calque.
C'est ça.
L'un, il a la joue qui touche la fenêtre, l'autre, il y a un centimètre de distance. Donc, ces tableaux qu'on croyait qui étaient des copies du même ne sont qu'un seul tableau destiné à être vu par un procédé adéquat.
Cependant, de nos jours, la vision stéréoscopique reste, pour Dali, révolutionnaire, puisque la majorité des peintres l'ont ignorée et n'ont jamais exécuté que des tableaux à deux dimensions.
Jusqu'à présent, la vision de tous les peintres était borgne. Et maintenant, grâce à la stéréoscopie, des images qui sont presque pas lisibles avec un seul œil deviennent hyperesthétiquement troublantes avec les deux yeux. C'est pour ça que maintenant, chaque fois que je fais un tableau, je suis obligé d'en faire deux. Pour que, grâce à Montebello qui a trouvé le système de miroir, on puisse fusionner. Il y a des gens qui fusionnent les images stéréoscopiques sans besoin d'un appareil. Mais grâce à ce miroir, tout le monde sera fatalement concerné avec cette vision binoculaire qui est la nouveauté que j'apporte cette fois-ci à Paris, à mon retour. Parce qu'il faut un podium, il faut que la personne monte sur une petite escalier d'estrade pour que les yeux qui sont à la moitié du tableau, et il faut qu'il me sonne tout près de l'angle de miroir, ce qui plaira beaucoup, parce que maintenant on passe par les expositions en traînant, et cette fois-ci, j'oblige dynamiquement chaque spectateur à monter sur un petit escalier, à mettre son nez dans un endroit précis, alors donc la queue. Les gens devront faire la queue pour voir mes tableaux. Mon ambition. Pas qu'ils passent devant en bavardant, mais qu'ils doivent vraiment former part d'une action convulsive et pour le même prix hyperesthésique.
Ça veut dire qu'en fait, c'est un isoloir que vous leur proposez là.
Plus, c'est-à-dire un emmerdement total. Il faut que les gens souffrent pour une fois, pour voir un tableau de Dali.
Mais c'est votre côté impérialiste, ça.
Exact.
Hein? Bon. Et alors, si d'un seul coup, les gens découragés par la longueur de la queue disent « Oh, il nous ennuie ».
Tant mieux. Ils vont revenir un autre jour.
Bon, parce que vous pensez qu'il y a une telle fascination.
Ah, la fascination. Moi-même, que je suis habitué, je suis en extase. Quand je vois à l'horizon se former un trou que jamais l'œil humain a pu voir, et qu'on le voit pour la première fois en se donnant le mal nécessaire pour monter ce petit podium. C'est un podium en velours, très orné, enfin, beaucoup de cérémonial, névrotique.
Je fais là un petite parenthèse, Dali a des capacités stéréoscopiques parfaites. C'est un homme qui fusionne, il a une gymnastique binoculaire, des muscles, des yeux parfaits, et il fusionne aussi bien de petites images 24-36 mm que des grandes images, sans l'aide d'aucun appareil. Moi-même, j'ai ces qualités, donc le langage est facile. Nous avons des documents, nous les regardons, et immédiatement nous voyons où est l'espace.
Cette capacité binoculaire parfaite nous renvoie au souvenir que Dali, dans La vie secrète, prétend avoir conservé de sa vie intra-utérine. Il ressemble, selon lui, au phosphène qu'on obtient en appuyant fortement les mains contre les paupières. Docteur A, psychiatre.
On peut dire que c'est effectivement dans l'inconscient de Dali, que dans la réalité psychique de Dali, si l'on en croit une certaine théorie qui d'ailleurs est parfaitement plausible, et qui serait par conséquent au fond de lui-même les premiers souvenirs de son existence, c'est-à-dire d'une existence qui s'était déjà constituée avant même de naître, et en quoi il serait des souvenirs de la vie intra-utérine. Mais on peut aussi imaginer qu'ayant beaucoup lu, ayant beaucoup incorporé à sa propre histoire une immense littérature sur ce point, depuis Otto Rank et tant d'autres, il est bien certain qu'il a pu aussi faire une sorte d'élaboration secondaire, peut-on dire, du mythe de la vie intra-utérine, et le reprendre à son compte.
Il est un peu fantasmé.
Oui, je pense qu'entre le fantasme réel ou le fantasme fantasmé, je pense qu'il ne peut pas y avoir de différence très grande. Non.
Mais alors, sa passion pour le mou et le gluant, enfin...
Ça revient toujours à cette espèce d'attirance qu'a pour lui tout le corps, l'organique, le gluant, c'est-à-dire le vital, ce qui est à la fois essentiel et sale, qui est attirant et dégoûtant. C'est cette espèce de, je dirais, d'horreur du corps. Et en même temps de l'attirance du corps comme une nécessité, et une nécessité qu'il a transformée en espèce d'esthétique. C'est au fond dans ce sens-là qu'on peut interpréter cette sorte de fascination qu'exerce pour lui tout ce qui est matière, fécalité, viscosité, tout ce qui est membraneux, tout ce qui est la vie sous sa forme la plus informe.
Vous savez qu'il parle souvent de nourriture. La mâchoire est notre meilleur instrument de connaissance philosophique, dit-il. Il a fait par ailleurs l'apologie du cannibalisme, qu'il trouve enfin l'architecture de Gaudi comestible.
C'est un thème que là aussi, qui se prête à une psychanalyste très facile, de l'importance de l'oralité dans le développement libidinal de la paranoïa critique de Dali, pourrait-on dire, n'est-ce pas ? Parce que c'est en quoi, peut-être, en effet, il y a l'amour de la chair, mais de la chair en tant qu'elle est consommée, n'est-ce pas ? Et qu'elle est un objet destiné à vous donner à vous-même plus de force ou de vie, et non pas en tant qu'elle peut être un objet désiré. Et aussi ces régressions, notamment ces régressions orales, enfin, cette façon de dévorer le monde, n'est-ce pas ? De s'en emparer en le dévorant, tout cela se retrouve en effet dans une quantité de délire paranoïaque.
A toujours tout gustatif. Maintenant, j'écris un traité qui s'appelle le traité de Gerland et de Nid. Et c'est une série d'accumulations de choses que quand je mange, il me procure un certain plaisir. Et je l'avais trouvé parce que quand je vois l'eau minérale, j'ai toujours la tendance de lever la tête et regarder le plafond. Alors j'ai trouvé que quand il y a une guirlande, alors on peut avaler avec un plaisir extraordinaire l'eau minérale en suivant le cours de la guirlande. Mais quand on lève la tête et on se trouve un plafond modern avec des petites choses contre l'incendie, alors le plaisir disparaît totalement.
Oui, il y a même une menace là peut-être.
C'est pas la menace, c'est l'impossibilité de suivre une harmonie préétablie depuis des siècles. Parce que la guirlande, ça peut être, un traité de guirlande, ça peut être aussi profond que le traité de la psychologie de Marx de Jung.
Tout le monde saisit que ce personnage si théâtral, si exhibitionniste, si plein de lui-même, est au fond un personnage qui est vis-à-vis de l'amour désincarné. Les incarnations même qu'il fait, notamment du corps de la femme, ou du corps en général d'ailleurs, ce sont toujours des interprétations très, très abstraites, c'est pas, et très, très loin de ce qu'est la chair. Parce que pour lui, au fond, les corps, le corps de l'homme et de la femme ne sont pas des corps qui vont à la rencontre l'un de l'autre, ou dans une compénétration. C'est plutôt des corps qui sont eux-mêmes, comment dirais-je, réduits à une sorte d'unité substantielle, et c'est-à-dire une ambiguïté substantielle. Ce qui fait qu'il ne peut jamais penser au corps sans en faire une hermaphrodite.
Vous savez qu'il dit couramment que la seule grandeur de l'homme, c'est la mort, oui. Et que la chose vulgaire, enfin, qu'il faut éviter, c'est l'amour.
Ce n'est pas un personnage érotique, à mon avis. Je ne le connais pas. Je tiens à le dire que je ne le connais pas. Mais je pense que c'est un homme qui a exclu l'érotique par justement ça. Ces exhibitions érotiques qui restent, pour ainsi dire, périphériques ou superficielles dans son œuvre. C'est un homme qui a certainement beaucoup plus le génie de l'interprétation mystique du monde, en quoi justement je trouve qu'il y a une unité dans son œuvre, que un personnage qui aurait été un être d'amour. Je crois qu'il n'est pas du tout un être d'amour, enfin je pense, à part d'accepter de l'amour, ce qui est évidemment une gageure, le narcissisme.
À propos de ce narcissisme, Robert Descharnes a assisté à une singulière mise en scène de Dali par lui-même.
Je désirais avoir une image de lui pour le frontispice d'un ouvrage. À ce moment-là, Dali faisait tout un travail vidéographique lui-même. Il était son propre metteur en scène. Il avait créé une sorte de petit plateau où il imaginait des scènes, où il faisait des collages. Il était, disons, un réalisateur de télévision avec un système vidéo.
Ce sont des émissions qu'on ne verra jamais.
On ne verra jamais. Elles sont d'ailleurs assez imparfaites sur le plan technique, mais enfin, il y a des moments assez fantastiques. Alors, Dali étant caméraman, il était tout. Donc, dans cet appartement, il y avait un système vidéo complet. J'arrive pour faire cette photo, nous en parlons. Il me dit très bien, alors, le mieux, pour la première fois, nous allons faire une photographie où c'est moi qui vais la faire. Je vais me regarder, mais non pas comme un artiste se regarde quand il fait son autoportrait dans un miroir, ce qui renverse l'image et qui a toujours obligé les artistes à appliquer un petit artifice qui se voit, c'est-à-dire changer leur pinceau et leur palette de main, de la gauche dans la droite et de la droite dans la gauche. Il est très facile de voir les plus grands artistes se peignant eux-mêmes dans un miroir avec une légère crispation de la main, parce qu'elle est renversée. Alors là, c'était le contraire, puisque Dali se voyait à l'endroit, dans la caméra vidéo, grâce plutôt à la caméra vidéo, qui était, disons, placée côte à côte avec mon appareil photographique et avec le récepteur dans lequel Dali se voyait. Je ne pense pas que ça ait été beaucoup pratiqué, tout au moins avec cet esprit de renversement de l'image.
Mais alors là, c'est, disons, son complexe narcissique qui peut s'épanouir.
Naturellement.
Extrait d'un poème de Salvador Dali, La métamorphose de Narcisse.
Narcisse, dans son immobilité, absorbé par son reflet avec la lenteur digestive des plantes carnivores, devient invisible. Il ne reste de lui que l'ovale hallucinant de blancheur de sa tête. Quand cette tête se fendra, quand cette tête se craquellera, quand cette tête éclatera, ce sera la fleur, le nouveau Narcisse. Gala, mon Narcisse.
C'est un des traits, je dirais, du narcissisme, du génie artistique, que de s'identifier à ce qui, pour lui-même, est une valeur suprême, qui est celui d'une invention si radicale qu'elle est la folie la plus pure. Alors, il y a là une espèce de séduction exercée par ce modèle sur beaucoup d'artistes auxquels il se conforme. Et je ne suis pas sûr que les rapports d'Ali et la parole royale ne soient pas des rapports de conformité à un certain idéal.
Oui, il est important sûrement de prendre en considération, et pas du tout à la légère, tout l'aspect théâtral de l'œuvre de Dali.
Claude Tisse.
C'est sûrement pas par hasard qu'il se donne lui-même à voir, comme s'il voulait en quelque sorte payer de son corps quelque chose qui est peut-être la jouissance qu'il tire de sa création. Il espère aussi que les autres en tireront un certain plaisir. C'est aussi important peut-être que ce qui se passerait sur un théâtre. Parce que y a, dans un théâtre, quand on regarde une scène de théâtre, il y a bien sûr quelque chose qui est de l'ordre de l'image, qui nous est donné à voir, mais il y a des gens qui sont là et qui interprètent. Alors Dali, on a l'impression que par moment, simplement le fait de travailler au niveau de son œil ne lui suffit plus. Il n'est pas satisfait de ça. Il veut une espèce de personnalité totale qui serait là et qui serait donnée à voir et qui recevrait peut-être plus directement comme ça le témoignage que les gens sont là aussi.
Il utilise souvent le mot d'impérialisme.
Oui, mais il n'y a rien de plus impérialisme que l'art, c'est évident. Il en joue, parce qu'il a aussi une possibilité de se mettre toujours derrière ce qu'il fait, et c'est peut-être ça son extraordinaire humour, et d'être toujours, alors là, en position de critique. C'est peut-être ça sa paranoïa critique, c'est qu'il est toujours capable de se mettre derrière, et puis de jouir de ce qui se passe devant. Ça, je crois que ça, c'est très important.
Y compris dans ses tableaux.
Y compris dans ses tableaux, et peut-être surtout dans ses mises en scène, où justement, il est toujours déguisé. Il apparaît avec une moustache extraordinaire, ou avec un costume extraordinaire, ou une voiture incroyable, dont, par derrière, il est bien évident qu'il peut s'amuser beaucoup.
Il donne à voir.
Ah oui, ça, il donne à voir.
Dr. Rumker.
C'est un mécanisme de défense qui est fondamental chez Dali. Voilà, tout le monde sait, il y a l'être et le paraître. Ce sont deux choses tout à fait différentes. En général, nous sommes ou nous croyons être. Et quand on exagère dans le personnage que l'on se donne ou que l'on veut être, qu'on veut faire paraître aux autres, eh ben, on est un snob, un dandy, un mythomane, un simulateur. Eh bien, Dali a réalisé ce chef-d'œuvre de mécanisme de défense, de supprimer son être véritable et de le transsubstancier dans le paraître, au point de n'être plus que pur paraître. Il nous le décrit tout au long de sa vie, comment il se protégeait en ayant l'air de ce qu'il n'était pas. Or, encore une histoire fabuleuse, c'est l'histoire d'Avida Dollard et de Breton, où Breton a cru le crucifier, le dégringoler, le détruire, et c'est génial, monsieur. Et il en a fait son image de marque.
Les hommes sont lésés, c'est un élément excellent pour le genre de crétinisation que je pratique constamment. Et la plus bonne de toutes, et c'est très bien pour finir, j'avais annoncé que j'arriverais à Venise sur le dos d'une baleine. Onassis m'avait dit qu'il me procurerait une baleine vive, mais avec des réfrigérateurs. C'est très bien, c'est très bien. Okay. Prenez-le. Ils sont là, ici. Alors, Onassis, comme je vous disais, il m'avait prêté, les journaux ont dit qu'il m'avait prêté, il me ferait venir une baleine, etc. Rien de ça n'est arrivé. Mais quand j'ai donné ma première représentation d'Escarlati, une opérette de Scarlatti très frivole à la Fenice, qui c'est le plus beau théâtre de Venise. Il y avait, j'aimais pas, un des décors, je dis, qu'on remonte tout ça vers le haut. Alors vers le haut, il y avait un grand drap noir qui pendait pour cacher justement le décor. Et je vais dîner après chez une princesse de Venise, Et tout le monde me félicite et me dit, mais le plus beau de tout, c'était la baleine. Et moi, je me disais, mais quelle baleine? Parce que il n'y avait pas de baleine. Alors, le lendemain, j'ai vu que la forme de comment était drapée, cette chose, c'était un exemple purement fortuit. Les gens, par la suggestion des journaux et d'avoir parlé tellement de baleines, ils ont vu tous une baleine. Et ce que nous tâchons de faire au musée, c'est que les gens voient des baleines et voient des choses qui ne sont pas.
Oui, mais si, comme dans le conte d'Andersen, quelqu'un dit « le roi est nu », qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Il n'y a pas de baleine. Si un enfant vous dit ça.
Ah, mais moi, je suis celui qui crétinise. Je ne suis pas celui qui est crétinisé.
Oui, mais c'est un jeu. Est-ce que ça vous conduit au scepticisme, ça?
Au contraire, à la fois. À la fois dans la pensée humaine et dans le pouvoir de suggestion des idées quand on y persiste après 30 jours ou 3 mois de parler d'une baleine, les gens ont vu ma baleine sans l'avoir vu.
Est-ce qu'il n'y a quand même pas un danger en se disant on peut leur faire gober tout ce qu'on veut?
Dans tout il y a un danger, mais il faut vivre dangereusement.
C'était « Naissance d'une divinité », le 9e des 10 épisodes de la série « Clés pour un théâtre musée » proposé par Daniel Lecomte, avec Salvador Dali, Henri Hay, psychiatre, Robert Descharnes, photographe, biographe et collaborateur de Salvador Dali, Claude Tisse, psychanalyste, Pierre Roumeguer, psychanalyste de Salvador Dali. Lecture Jacques Dufilot, réalisation Jacqueline Archambault, première diffusion sur France Culture, le 16 novembre 1978, dans Les Nuits Magnétiques. À suivre.